Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël et chaque après-midi, enchanté de même, chaque après-midi quand je retrouve la soyeuse chevelure de Stéphane Bern du haut de laquelle 40 siècles nous contemplent, aurait dit Hugo, je suis à la fois excité et intimidé. Comment ne pas l'être devant un homme d'une telle expérience, avec de telles connexions? Car si Stéphane connaît bien notre président de la République, ce n'est qu'un nom de plus dans la liste de ses nombreux amis.
J'ai bien connu Monsieur de Béchamel, le saucier de Louis XIV.
Bonjour Stéphane, vous les connaissez tous, jusqu'au saucier de Louis XIV. Ravi de vous retrouver pour ces deux heures de savoir joyeusement badigeonner, vous l'avez compris, de bonne humeur. Et vous, chaud ou bien? Enfin, je veux dire, est-ce que sa seigneurie est en bonne disposition aujourd'hui, quoi?
On ne peut mieux, Mathieu, on ne peut mieux. Il faut dire que nous sommes à l'orée de deux heures passionnantes.
Ah, m'en dirait tant.
Chaque jour de 16h à 18h, ça ne vous a pas échappé, Mathieu, non. Sur Europe 1. Nous revisitons l'histoire de façon amusante et amusée autour de trois personnages historiques qui n'ont rien en commun sur le papier et pourtant, à y bien regarder, sont reliés par une thématique commune. Aujourd'hui, c'est une spéciale drôle de sœur.
Oui, alors ça c'est drôle de dame, mais on va dire que ça marche. Drôle de sœur, oui, cet après-midi, Stéphane, on va une fois de plus sauter d'une époque à l'autre comme deux petits cabris rieurs, de la France de Louis XV à l'Amérique de John Kennedy, en passant par l'Angleterre de Madame Thatcher.
Oui, cher Mathieu, aujourd'hui, de drôle de sœur. Et j'espère vraiment que vous avez respecté le thème dans le choix de votre troisième personnage, le contemporain de l'étape.
Bien sûr, je respecte toujours Stéphane.
Parce que moi, je vous parlerai des sœurs Mayenel, les favorites de Louis XV, puis des sœurs ennemies. Vous savez, Jackie Kennedy et sa sœur Lee Radziville. Là, jusqu'à présent, ça se tient. Vous, de qui allez-vous nous parler?
Sans hésiter, Stéphane, car pour moi, respecter la thématique de l'émission est essentiel. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de sœur Elton John.
Non mais ça marche pas, la sœur Elton John.
Je suis désolé, ça marche grave. J'adore Elton John déjà et c'est un lord, vous devriez aimer.
C'est un pervers, vous le savez.
Contrairement à vous, j'essaierai de ne pas porter de jugement moral sur les personnages que nous évoquons. Nous-mêmes, Stéphane, sommes-nous vraiment des modèles de vertu?
Non, en tout cas, non.
C'est clair.
Non mais attendez, aujourd'hui, en plus de ces drôles de sœurs, et comme chaque jour, il remonte à sa manière aux origines d'un objet de notre quotidien, d'une tendance qui ne date pas d'hier. David Castello-Lopez nous raconte les origines de quoi? Du karaoké.
Vous tenez bien le karaoké, c'est vous qu'on entend?
Non. Je crois que c'est Cadmerade, me semble-t-il.
Oh, monsieur est connaisseur.
Clémentine Portier-Kaltenbach nous fait pénétrer sur la pointe des pieds dans l'intimité de l'histoire. À la découverte des petits secrets des grandes ce monde, elle nous dira pourquoi à l'époque certaines femmes ont délaissé leur mari au profit de leur vélo. Et avec Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, nous savourons l'histoire des recettes et de la cuisine. Et aujourd'hui, l'histoire renversante de la tarte tatin.
Et le quiz, on oublie le quiz à son matounet. Ça s'appelle Burn to be Alive. Chaque jour, des questions pertinentes et des réponses farfelues de Stéphane qui, pour vous situer, jusqu'à hier, pensait qu'Antoine de Saint-Exupéry était pilote dans l'aérospatiale. C'est vous dire si le type a bidonné son CV.
Non, c'est pas possible. Vous pouvez. J'ai commis un lapsus, ce qui n'a rien à voir avec une erreur.
Non, n'essayez pas de refaire l'histoire. Ici, on refait pas l'histoire, on se contente de la raconter, Stéphane.
Bon, oui, on raconte l'histoire sans se la raconter nous-mêmes. Comme notre premier chroniqueur, chaque après-midi, il ouvre le bal, même si nous ne sommes plus des débutantes, mon cher Mathieu.
Et
moi, c'est plutôt le bal des débutants.
Alors David Castello-Lopez, on vous dit bonjour déjà puisque vous nous avez déjà rejoint en studio.
Bonjour.
Vous frétillez d'excitation chaque chronique. Oui. Aujourd'hui, vous nous parlez de karaoké. Vous voulez nous mettre à contribution ou pas?
Un petit peu, mais je vais surtout vous expliquer au passage pourquoi c'est une invention de Satan.
Satan?
Oui, Satan. J'ai bien connu Satan aussi.
Soyez patient, Stéphane.
Très bien.
On va le savoir tout de suite.
J'attends.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre. Cet après-midi avec Mathieu Noël, on vous raconte les destins incroyables de drôles de sœurs. Les cinq sœurs Mayenel, dont quatre ont couché avec Louis XV, et les rivalités, ça vous fait rire.
Mais qu'a foutu la cinquième? Enfin, c'est vraiment...
Je ne sais pas.
Elle n'a pas voulu.
Les péchés des quatre autres. Les rivalités entre Jackie Kennedy et sa sœur Lee Radziville.
Et n'oubliez pas, sœur Elton John aussi. Ça, c'est mon personnage, le troisième, un peu plus contemporain.
Sœur, Mathieu, non, attendez, sœur, sœur.
Oui, sir.
Sir, Hein, vous le tenez bien, vous aussi.
Je tiens parfaitement. Oui.
Mais pour commencer, comme chaque jour, il nous raconte les origines d'un objet de notre vie quotidienne, ou parfois même d'une passion, comme aujourd'hui. C'est le passionnant David Castello-Lopez.
Merci, ça fait plaisir d'être présenté comme ça. Est-ce qu'il y a des choses, Mathieu, Stéphane, que vous n'aimez pas, alors que tout le monde les aime ?
Plein de choses.
Oui. Ouais. Oui, mais on peut pas le dire.
On peut pas le dire.
Non, on peut pas perdre des auditeurs, si vous voulez.
Oui, je
comprends. Moi, j'aime tout ce qu'aiment nos auditeurs. Tous les auditeurs d'Europe 1, ils ont bon goût, donc moi, j'aime la même chose qu'eux.
Moi, je pense
Maître Gims, même.
Il y a un truc qui est vraiment comme ça, pour moi, c'est le karaoké. Hein. C'est-à-dire, tout le monde aime et j'aime pas.
Alors là, j'adore le karaoké.
Et moi, je comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment l'inventon, comme je vous le disais, d'une sorte de Satan populiste. Mais bon, c'est pas parce qu'on déteste un truc que c'est pas intéressant de savoir d'où ça vient.
Non.
Et donc, j'ai fait mes recherches pour connaître les origines du karaoké. Et ces recherches, elles m'ont amené à Osaka, au Japon, hein, pour de vrai. Osaka, 19 millions d'habitants. C'est presque deux fois la population du Portugal, dans une seule ville, hein, c'est beaucoup. Mais bon, évidemment, si j'y suis allé, c'était pas pour compter les gens, c'était pour voir un vieux monsieur qui m'a reçu en pantoufles et chaussettes et qui s'appelle Daisuke Inoue. Voici sa voix.
Konnichiwa, watashi ga karaoke wa hatsumei shita Inoue Daisuke desu. Yoroshiku.
Bon, alors vous venez de l'entendre.
Daisuke Inoue, je suis l'inventeur du
karaoké. Il a un peu l'accent d'Osaka.
Oui, j'ai Osaka Sud.
Ouais. Moi l'accent d'Osaka, je trouve ça charmant. Vous avez vu comment il prononce Watashi wa. Bon, dans le studio, tout le monde parle japonais, mais c'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs, donc vous allez commencer à le faire, mais je vais le traduire. Le monsieur a dit « Je m'appelle Daisuke Inoue et c'est moi qui ai inventé le karaoké. »
Enchanté. Énorme.
Alors, Daisuke, il est né en 1940 à Kobe, l'endroit où on fait de la viande très chère, et il a commencé une carrière de musicien, comme chanteur et puis comme pianiste.
Évidemment, Stéphane, on a commandé pour le week-end. S'il me regarde, il me fait un d'œil. Donc, je pense
Kobe.
Que.
Oui, mais vous aimez ça. Elle n'était pas aussi à la mode quand il est né en 1940.
Pas tout à fait. C'est venu un peu plus tard, après le karaoké. Et donc, il était, lui, musicien, chanteur et puis pianiste. Et régulièrement, en tant que pianiste, il accompagnait un ami à lui. Mais il n'était pas non plus tout le temps disponible, Daisuke. Et donc, l'ami en question a fini par lui dire « Écoute, tu veux pas t'enregistrer ? Comme ça, je te fais pas chier, tu me donnes la bande, je chante dessus et voilà. » Et c'est exactement ce que Daisuke a fait. Mais dans un second temps, ça lui a donné une idée. L'idée de faire tout simplement une machine dans laquelle on puisse mettre des pièces, passer une bande magnétique avec de la musique et permettre à n'importe qui de chanter par-dessus. Cette machine Daisuke, il l'a mise au point. Elle a été installée dans un bar à Kobe en 1971. Et c'est donc considéré comme la première occurrence du karaoké moderne dans le monde. Alors, je l'ai eu entre les mains, cette boîte. Hein. Elle fait la taille de... Vous voyez les mini-bars dans les hôtels ?
Oui.
Elle fait deux tiers de mini-bar. Oui, à peu près comme ça, voilà, au niveau de la taille. Rouge et blanche en bois, on met une pièce dedans, on lance la machine et on suit les paroles. Alors, pas encore sur une petite télévision où ça se colore progressivement, sur un carnet à l'époque. Hein. C'était un petit peu plus rudimentaire. Alors malheureusement pour lui, Daisuke n'a pas déposé de brevet pour sa machine et donc il n'a pas gagné beaucoup d'argent. D'ailleurs, pour l'anecdote, il m'a quand même demandé d'être payé pour l'interview.
Le rat.
Chose que je dis, mais je suis désolé, je ne peux pas faire ça, mais je peux vous apporter une bouteille de vin si vous voulez. Il a fait non, mais c'était juste, il a testé quoi. Voilà. mais il a quand même reçu un prix d'inventeur prestigieux. Et depuis, le karaoké, c'est devenu une des principales façons de s'amuser au Japon et même ailleurs. Il y a même un championnat du monde de karaoké. J'ai enregistré quelques exemples pour vous montrer. Voici par exemple la candidate américaine.
N'est pas excellente, David. Hein, c'est votre faute. Par contre, elle chante pas mal, effectivement.
Mais c'est niveau final de The Voice. Et là, vraiment, je me suis dit, attends, le karaoké, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que le karaoké, c'est pas ça. Parce que dans l'ADN du karaoké, il y a précisément le fait que tu as le droit inaliénable d'être mauvais. Et ça, je suis pas prêt à le supporter.
Et vous savez, il y a un autre pays où ça marche très fort, c'est la Corée du Sud. Oui, parce que la Corée du Nord,
c'est une autre forme de karaoké.
Il y a seulement le discours de Kim Jong-un.
mais peut-être qu'on peut faire un petit karaoké
en Corée du Sud. Vous allez les soirées, tout le monde après dîner va dans des clubs de karaoké.
Et donc vous-même, vous avez testé avec vos amis coréens du Sud.
Mais c'est pas possible.
Ça, c'est pas possible. On a les images, mais on est en radio, vous avez de la chance. Ouais. Merci David Castello-Lopez. À demain.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, je le sais, Stéphane, vous êtes du genre à taper Sister Swap dans l'onglet recherche de Pornhub. Inutile de démentir, je commence à fermer le boom. Vous réfléchirez. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous fantasmez sur des sœurs, faites-vous plaisir. Et si d'aventure d'autres partagez votre vie, faites-leur plaisir. Tout de suite, vous allez nous parler des sœurs Maïnel qui ont été successivement à la queue leu-leu, si j'ose l'image, les favorites du bon roi Louis XV.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, deux heures
hystéro. Ça, c'est vous qui êtes hystéro, mais l'émission, elle est
historique-comique.
Juste... Oui, c'est
pour découvrir trois personnages que rien a priori ne relie, sauf un point commun.
Oh oui, Stéphane. Et aujourd'hui, petite entorse à notre règle, un thème, trois personnages, puisque nous avons, et c'est un record, un thème pour huit personnages. C'est un peu la fête cet après-midi dans Historiquement vôtre, avec justement quelqu'un qui, comme on dit, savait s'amuser. Son kiff ? Un peu comme Stéphane, mais quatre siècles avant, essayez toutes les sœurs d'une même famille. Rencontre avec un Louis XV, bien loin de ce qu'en disait votre manuel d'histoire de première.
Historiquement vôtre. Le récit.
Eh oui, Mathieu, vous parlez de quatre sœurs...
Vous savez jouer du clavecin.
...qui ont défrayé la chronique. Vous avez vu la différence du choix, des choix musicaux quand c'est vous qui parlez,
ouais, c'est
quand c'est moi
différent.
Qui parle.
Ouais, des siècles nous séparent.
On devrait inverser, en fait. Alors, vous parlez de quatre sœurs qui ont défrayé la chronique en devenant, les unes après les autres, favorites du bien-aimé, le roi Louis XV. Il s'agit des sœurs de Mayinel, des sœurs qui ont eu le goût du pouvoir au point d'en faire une tradition familiale. Pendant plus d'une décennie, de 1733 à 1744, elles ont régné dans le cœur, mais aussi dans le lit, souvent froissé, du roi. C'est d'ailleurs avec elles que le bien-aimé découvre les plaisirs de la chair en dehors du mariage.
Il était bien aimé, mais surtout bien entouré, le bougre.
Ah, vous n'avez pas idée. Tout commence un soir de 1732. Louis XV, qui a 21 ans, reçoit quelques intimes à souper. L'humeur est joyeuse, le repas succulent, le vin coule à flot. On porte des toasts quand soudain le roi se dresse pour lever son verre de champagne à la santé d'une belle inconnue.
Santé, ma belle inconnue.
Bon, le roi n'en dira pas plus. Très vite, la femme
mystère...
Mais je fais
bien le roi, quand même.
Oui, vous le faites très
bien.
C'est
pas mal.
La femme mystère se retrouve au centre de toutes les conversations à Versailles. Qui est-elle ? Le roi a-t-il une liaison ? Si les courtisans s'interrogent autant, c'est que, jusqu'à maintenant, Louis XV était un époux fidèle, n'ayant Dieu que pour son épouse, la reine Marie Leszczynska.
Mais il aura tenu 21 ans, c'est déjà pas mal, Stéphane.
Oui. Alors, disons que la pauvre reine Marie Leszczynska, fille de Stanislas, le roi de Pologne, enchaîne les grossesses sans pâte et vieillit avant l'heure. Alors, le roi commence à regarder ailleurs, d'autant que ce ne sont pas les jolies filles qui manquent à la cour de France.
Oui.
Le roi entame une liaison secrète avec Louise-Julie de Mailly, l'aînée des sœurs Mayinel. Sur les cinq, d'ailleurs, seule la quatrième, Hortense Félicité, ne sera pas la maîtresse de Louis XV.
Il a raté le grand chelem de près.
Il n'a pas tout raté, vous verrez. Revenons aux origines de la première maîtresse de Louis XV. Louise Julie, à 16 ans, on la marie à son cousin, deux fois plus âgé qu'elle. Le couple s'entend mal, se sépare au bout de deux ans. Si l'on en croit les contemporains, Louise Julie de Mayinel a un visage quelconque. Mais son absence de beauté est un atout pour le roi. Oui, parce que Louis XV, grand timide, il est terrifié par les jolies femmes entreprenantes.
Ah, il aimait les moches, Louis XV.
Non, c'est pas ça, c'est que elles étaient plus
accessibles pour lui.
Exactement.
Il faisait moins peur.
Et leur liaison, dans un premier temps, est connue de peu de monde. Louise est extrêmement discrète. Bon, enfin, vous savez, à la cour de Versailles, rien ne reste secret bien longtemps. Il est difficile de conserver un secret. Et la reine découvre le poteau rose.
Ah.
Elle se lamente et prie pour le roi qui s'est montré si fidèle pendant tant d'années.
Bon, ça va, elle réagit plutôt bien, elle ne s'énerve pas, elle prie.
Oui, mais prier ne suffira pas à calmer le roi. Une demoiselle en particulier a des visées sur lui. Pauline Félicité, la deuxième fille du marquis de Nesle, élevée au couvent de Port-Royal à Paris, elle ne manque pas d'ambition. Comme vous allez nous le prouver, Mathieu.
Ah oui. J'irai à la cour auprès de ma sœur, le roi me verra, me prendra en amitié, et je gouvernerai ma sœur, le roi, la France et l'Europe.
Oh, mais ces paroles rapportées dans les mémoires du maréchal de Richelieu sont à prendre avec des pincettes, Mathieu.
En gros, c'est n'importe quoi.
Si Louise Julie, son aînée, a un physique banal, Pauline Félicité est carrément repoussante.
Ah mince.
Figure de grenadier, col de grue, odeur de singe, résume une autre de ses sœurs, la marquise de Flavacourt.
Sympa,
oui,
la famille.
Oui, alors les sœurs s'adoraient, vous
voyez. Oui,
je vois
ça. Ouais.
C'est le principe de notre émission du jour, drôle de sœur. Pauline Félicité est peut-être laide, mais elle est très intelligente. Elle supplie Louise Julie de Mailly de la sortir du couvent, prétend que sa présence lui manque, qu'elle veut vraiment vivre à ses côtés. Sincèrement touchée, elle cède et introduit sa sœur à la cour en septembre 1738. Erreur grossière.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je vous laisse deviner.
Europe 1, historiquement vôtre.
J'essaye de deviner, Stéphane, peut-être qu'en voyant la Pauline, le roi, dans un éclair de lucidité, s'exclamera
« Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche !»
Même si Pauline n'est pas moche, rappelons-le, elle n'avait juste pas un physique facile.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors Stéphane, une fois de plus, sous prétexte que vous vouliez absolument entendre la dernière pub Cochonou, vous êtes interrompu au meilleur moment de votre récit sur les sœurs Maïnel qui se passionnent pour un seul homme, Louis XV.
Oh, j'ai droit à mon clavecin. Passionné est le mot. Louise Julie présente sa sœur Pauline Félicité au roi, qui est tout de suite séduit. Louis XV l'invite à la chasse ou à souper avant d'avouer à Madame de Maille qu'il est amoureux de sa sœur. La pauvre se résigne. Pour éviter le scandale, on marie Pauline Félicité de Nesle au marquis de Vintimille, qui n'est pas franchement ravi d'épouser, selon ses propres mots, une femme mal bâtie qui pue comme le diable.
Parce que le diable pue, on apprend vraiment plein de choses dans cette
le
émission.
Le diable, je ne sais pas, mais elle, oui. Louis XV ne voit pas les défauts de cette dulcinée. À ses côtés, il oublie sa timidité. Vers 1740, Pauline Félicité de Vintimille tombe enceinte, mais la grossesse se passe mal. Elle ne se remet pas de l'accouchement. En apprenant la nouvelle, Louis XV s'effondre de douleur et passe ses journées à lire et relire les lettres échangées avec la défunte. Désespéré, Louis XV cherche du réconfort auprès de sa première maîtresse, Louise Julie de Mailly, mais la faveur de cette dernière décline de nouveau au profit d'une autre de ses sœurs. Il s'agit cette fois de la cadette Marie-Anne, marquise de la Tournelle. Par l'entremise de son aînée, décidément très naïve, cette charmante veuve a obtenu une place de dame d'atour à Versailles.
Mais elle n'est pas naïve, hein, l'aînée, elle est complètement con, Stéphane. Oui. Il faut dire les choses. Hein.
Bon, d'autant que Marie-Anne est vraiment la plus jolie des filles Maïnel.
Et surtout, ou la moins moche, parce que d'après les descriptions qu'on a depuis le début,
je crois qu'elle était très jolie. Mais surtout la plus rusée. Elle a compris que pour durer à Versailles, il faut être entourée. Elle s'allie à son oncle, puissant duc de Richelieu. Cet arrière-petit-neveu du cardinal a pour ambition de devenir Premier ministre, de gouverner la France à la place de Louis XV, rien que ça. Mais pour y arriver, il a besoin d'une alliée capable d'obtenir l'oreille du roi et pas que l'oreille. La belle Marie-Anne est la complice idéale. Pour commencer, elle fait languir Louis XV. Elle refuse de lui ouvrir la porte quand il est à choisir. Il gratte à la porte, elle refuse d'ouvrir.
Toc, 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 s'il vous plaît, je suis le roi, ouvrez-moi.
Oui, elle le fait lanterner, le roi. Et elle pose ses conditions. Pas question de partager. Il faut que la grande sœur, elle fasse ses mal et elle disparaisse du paysage. Elle exige un appartement bien en vue au château, une rente mensuelle de 50 000 livres, des bijoux, des robes, un carrosse à 6 chevaux. Et puis elle obtient même le titre de duchesse de Châteauroux, sans savoir où était Châteauroux à l'époque.
Elle était parachutée.
Elle regardait avec sa sœur sur des
comment
cartes.
En politique.
Elle
n'arrivait
pas à trouver Châteauroux.
Ça, vous l'avez rajouté pour le fun
ou c'est vrai, vous allez voir.
C'est vrai.
En vrai, oui. Moi, je sais très bien où est Châteauroux. Je suis bien duc de Châteauroux. Enfin, la pauvre Louise Julie de Mailly quitte Versailles en pleurs. La nouvelle favorite de sa sœur est toute puissante. Mais la duchesse de Châteauroux accepte occasionnellement de partager le roi avec une autre de ses sœurs, Diane Adélaïde, duchesse de Lauragais.
Voilà, j'attendais, c'est la quatrième, celle-ci.
Eh oui. Ah, vous savez, à la cour et à Paris, on s'amuse des dames de Maïnel, au talent si estimé par le roi de France. Un pamphlet anonyme circule. L'une est presque oubliée, l'autre presque en poussière, la troisième est en pied, la quatrième attend pour faire place à la dernière. Choisir une famille entière, est-ce être fidèle ou constant ?
Fidèlement constant.
Oui, mais en décembre 1744, c'est le drame. Marie-Anne déclare une fièvre importante. Elle délire, souffre de violents maux de tête. Son agonie dure 10 jours.
Probablement l'ancêtre du coronavirus.
Non, c'est la mort.
Ah
la
oui, guêpe. C'est oui. Pareil, souvent le même résultat.
Si vous avez bien compté, 2 sœurs ne sont plus. Louise-Julie de Mailly, l'aînée de la famille Nesle, consacre les années qui lui restent à expier ses péchés, ainsi que ceux de ses sœurs.
Ça a dû lui prendre du temps.
Oui. Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, c'est l'évidence, hein, Stéphane, vous avez très bien bossé votre récit sur les sœurs Maïnel, sujet qui vous passionne, mais justement, peut-être un peu trop, ça vous a donné chaud, et votre esprit embrumé par le stupre de cette sulfureuse quadruplette, quintuplette même, vous joue certainement des tours. Voilà pourquoi il est intéressant de demander quelques précisions à un spécialiste. Bonjour Camille Pascal.
Bonjour Mathieu.
Oui, Camille Pascal, vous êtes alors haut fonctionnaire, écrivain, votre premier roman, L'été des quatre rois, a été couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Vous publiez en cette rentrée un livre fantastique, je le dis, La Chambre des Dupes chez Plon, qui nous permet de replonger dans ce Versailles sulfureux de Louis XV. Alors dans votre livre, Camille, vous évoquez notamment les amours passionnés de Louis XV avec la duchesse de Châteauroux, Marie-Anne, marquise de la Tournelle, oui, le titre, elle l'obtient une fois qu'elle a couché avec le roi. C'est l'une des maîtresses tombées dans l'oubli du règne de Louis XV. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît dans le livre d'histoire, on nous parle que de la Pompadour et de la Dubarry, mais jamais des sœurs, enfin, très peu, ou des sœurs Maïnel.
Bah, elle a été complètement effacée par le règne, le très long règne de la marquise de Pompadour, et puis par les folies de la comtesse du Barry. Et puis on les confond. Or, le personnage de la duchesse de Châteauroux est passionnant parce que c'est la première véritable maîtresse qui va jouer un rôle politique.
Et justement, on va parler d'elle, parce qu'elle était peut-être la plus jolie, mais voilà, elle s'est approchée trop près du soleil et elle s'y est brûlée les ailes. On va en parler dans un instant avec Amy Pascal.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui raconte l'histoire sans se la raconter. Aujourd'hui, on parle de ces drôles de sœurs et c'est notre invité, l'écrivain Camille Pascal, auteur de La Chambre des Dupes chez Plon, qui répond à nos questions sur les sœurs Mayenel, toutes proches, mais tellement proches du roi Louis XV. Et on arrive à Marianne. C'est quand même qu'elle était jolie, Marianne.
Dieu que Marianne était jolie, mais j'ai compris la référence.
Je sens que monsieur est connaisseur.
C'est la plus jolie des sœurs. Elle était même faite à peindre, puisqu'en fait, ce qui va faire son succès, c'est le grand portrait qui est commandé par sa tante, la duchesse de Mazarin, qui n'aime pas son autre nièce et qui a bien décidé de la détrôner et qui a commandé un portrait magnifique à Nattier qui existe toujours, qui est toujours à Versailles, et où elle apparaît en point du jour en laissant voir une partie de ses seins. Et ce tableau a été vu par le roi. Et cette image-là a commencé à le titiller.
Oui. Et donc elle rentre dans... Elle fait tout pour devenir la maîtresse du roi. Elle a son allié, le duc de Richelieu, son oncle.
Mais elle a une volonté farouche, c'est en finir avec sa sœur aînée, la renvoyer.
Mais elle se déteste
elle
à
se
ce
déteste,
mais pourquoi elle se déteste, les sœurs?
Alors, c'est très compliqué, mais je pense qu'elles ont été humiliées de voir leur sœur régner à Versailles et ne jamais les faire venir. Et donc, elle a un plan concerté. Et avec Richelieu, il se trouve que j'ai eu une chance folle, j'ai retrouvé la correspondance de ces deux-là. Voilà, que tout le monde avait oublié, qui dormait dans un carton d'archives. Elles sont aux archives de la Sorbonne.
Ah oui, c'est fou.
Puisque le dernier duc de Richelieu a donné toutes ses archives et il y a ces lettres qui sont là, manuscrites. Et avec, alors à chaque fois, la duchesse de Châteauroux écrivait « Surtout brûler mes lettres », ce que Richelieu ne faisait pas parce que déjà à l'époque, il valait mieux avoir une assurance vie. Donc il avait gardé la totalité du courrier. Donc on suit cette opération de séduction et là, sa force, c'est qu'elle va se refuser par trois fois au roi.
Jusqu'au moment où elle cède. Et alors là où le livre devient incroyable, Camille Pascal, c'est quand on voit les jeux à la fois du pouvoir et de la religion. Parce que le roi va partir donc à Metz, puisque pour mener la guerre, il tombe malade. Et là, tout le monde se retourne évidemment contre la maîtresse. C'est qu'il est dans le péché et donc le royaume peut sombrer s'il a une maîtresse.
En fait, on arrive à un moment, et c'est ce que j'ai voulu amener par la première partie du livre, à une crise. C'est que la duchesse de Châteauroux a réussi à convaincre Louis XV d'aller à la guerre. Elle demande à suivre, ce qui est un scandale absolu pour l'époque. C'est-à-dire que non seulement elle suit, mais elle suit avec sa sœur, qui lui sert de doublure sexuelle. Quand elle est indisponible, sans rentrer dans les détails, ben c'est la duchesse de Lauragais qui prend la suite. Et une nuit, Richelieu a la bonne idée de lui suggérer de coucher avec les deux en même temps. Et donc une nuit, il semblerait qu'ils aient donc eu les deux sœurs en même temps dans le même lit. Mais le lendemain, il tombe malade. On ne sait pas très bien ce qu'il a eu, on pense que c'était infectieux. En réalité, il est surtout très vite épuisé par ses médecins, car on le saigne la journée, on le purge, au point d'ailleurs qu'à la fin, on ne sait plus où mettre le sang royal, alors on le jette par la fenêtre, ce qui scandalise...
Alors que Stéphane l'aurait récupéré volontiers.
Ce qui scandalise les princes, en disant le sang de Saint-Louis ne peut pas finir sur le trottoir.
Il n'y a pas de trottoir.
Malheureusement, 40 ans plus tard, ça finira comme ça. Mais, et donc, vous avez... un personnage terrible qui est l'évêque de Soissons, qui est le premier aumônier du roi, qui ne le quitte jamais, et qui va lui faire un véritable chantage au paradis, en lui disant « Ou vous renvoyez les maîtresses, ou vous faites amende honorable publiquement, ou jamais je ne vous donnerai l'absolution. » Ce qui veut dire pour un homme du XVIIIe siècle, surtout un roi de France qui a été sacré au nom de Dieu, que s'il ne reçoit pas le viatique, et donc qu'il ne reçoit pas l'absolution, il va directement en enfer. Il n'est pas pardonné.
Alors vous le saurez la suite.
Ah oui.
Est-ce que le roi a cédé? Ben vous le saurez en lisant La Chambre des Dupes. Merci Camille Pascal.
Merci à vous.
En tout cas, c'est un livre passionnant, La Chambre des Dupes, qui vient de paraître aux éditions Plon.
Europe 1, historiquement vôtre.
Chers auditeurs, après nous être allègrement vautrés dans la volupté du Versailles des sœurs Mayenel, je crois qu'il nous faut, même si c'est douloureux, marquer une pause dans notre course effrénée à la luxure. Clémentine Portet-Kaltenbach qui arrive pour nous entraîner dans les coulisses de l'histoire à une solution.
Castration des hommes à la hache ou au fer chauffé à blanc.
À mes aïeux.
Oui, planquez le matos, Stéphane. Portier-Kaltenbach arrive.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Je m'appelle Stéphane Bern. Il s'appelle Mathieu Noël.
C'est vrai, jusque-là.
Et c'est avec une joie sans cesse renouvelée et non dissimulée tous les jours au moins que nous vous accueillons dans Historiquement Vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire, la grande, la petite.
La moyenne aussi, on parle de toutes les histoires. Et c'est un moment de l'émission que vous aimez beaucoup Stéphane qui se profile. Il se passe quelque chose sur votre visage.
Sous le maquillage.
Oui, comme une rougeur qu'on devine. C'est normal, voici Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Et bonjour les garçons. Vous savez que conquérir le lit du roi, ça n'a jamais été quelque chose de très compliqué pour les femmes. Mais en tout cas, il y a des domaines dans lesquels pour les femmes, ça a toujours été plus difficile. En particulier le sport. Et comme nous sommes en pleine période de Tour de France, il m'a paru intéressant de se pencher sur les femmes et le vélo. Voilà, parce que avoir le droit de pédaler sur un vélocipède, ça a été une conquête extrêmement compliqué pour les femmes. Alors, je rappelle que le vélo, en gros, le vélo qu'on connaît aujourd'hui est opérationnel dans les années 1880. Il y a eu le baron de Ray, il y a eu des Parisiens qui inventent la pédale en 1861, les Michaud, père et fils. 8 ans plus tard, première course de vélo pour les hommes. Et puis, 1888, un vétérinaire écossais crée une sorte de tuyau de caoutchouc qu'on remplit d'air, qu'on appelle le pneumatique. C'est Monsieur Dunlop. Donc en 1888, en gros, ça y est, le vélo fonctionne. Il y a déjà les champions, mais où sont les championnes? Alors pour les femmes, il n'est pas vraiment encore question de vélo parce qu'on est dans ce siècle hygiéniste dans lequel les femmes n'ont pas le droit de faire grand-chose. Et la bicyclette choque. Elle est jugée malséante. Elle serait, dit-on...
Bah oui, bien sûr, parce qu'il y a la sève.
Petit canaillou. Hein. Alors, ça serait une machine à stérilité. Voilà ce que dit la science à l'époque. Hein. Une machine à stérilité qui fluctionnerait les organes génitaux féminins. Retenez bien ce verbe,
messieurs. Mais par contre, les organes génitaux masculins, ça ne leur fait rien. Alors que
ça les irrite.
Mais quand on pédale, terminez votre phrase, Stéphane, oui, ça fait mal, exactement.
Les hommes, ça fait mal, les femmes, ça fluctionne. Alors, plus grave encore... la bicyclette menacerait de remplacer un jour les maris comme partenaires sexuels de leurs épouses. Et oui, c'est ce qu'on pense à l'époque. Et donc, les médecins de la fin du siècle débattent indéfiniment pour savoir si l'action de pédaler ne conduirait pas ces dames à rechercher le plaisir sur leur nouvelle machine plutôt que dans le lit conjugal. Hein. Sans compter que pour faire de la bicyclette, les femmes mettent un bloomer. C'est en gros une culotte courte. Bon, ça arrive jusqu'au mollet, mais enfin, c'est une tenue qui offense gravement la pudeur. Donc, le vélo saignait. Enfin, de toute façon, les maris prolétariens peuvent dormir sur leurs deux oreilles car la bicyclette envisagée comme sextoy n'est pas à la portée de toutes les bourses, si je puis me permettre, loin s'en faut. Son coût en 1900 représente 3 à 4 mois de salaire ouvrier. Donc la bicyclette, à l'origine, ça ne concerne ni les ouvrières ni les paysannes. Le vélo pour les femmes, c'est pas demain la veille, surtout... quand les femmes les plus émancipées prennent position contre lui. Alors là, vraiment, j'étais très déçue par Sarah. Non. La grande Sarah Bernard, femme libérée s'il en fut, exprima publiquement sa réticence contre le vélo. « La bicyclette, dit-elle, est en train de transformer nos mœurs plus profondément qu'on ne semble en général s'en douter. Toutes ces jeunes femmes, toutes ces jeunes filles qui s'en vont dévorant l'espace renoncent pour une part notable à la vie intérieure, à la vie de famille. La considération morale doit l'emporter et j'estime que cette vie au dehors dont la bicyclette multiplie les occasions peut avoir des conséquences dangereuses très graves. Vous rendez compte ? C'est Sarah Bernard. »
Mais oui, mais cela dit, il y a un phénomène qu'on peut rappeler, Clémentine, c'est que le fait d'avoir des vélos, ça a désenclavé les villages. C'est-à-dire qu'avant, on se mariait dans son village.
Oui, et du fait qu'il y ait du vélo, on n'allait pas chercher un amant.
Et maintenant, on se marie entre... On va dans
du
le village d'à côté.
Bah oui, Stéphane, mais enfin, Sarah Bernard, elle a quand même couché avec la terre entière. Enfant en presse de ligne. Tout le monde l'a lutinée, elle s'est prostituée dans sa jeunesse. Et elle explique que les...
Ah non, vous ne pouvez pas dire ça, Sarah Bernard.
Là, je sens le clash qui arrive.
Non seulement je peux le dire, mais je le dis. Bon, alors moi, je trouve que Sarah Bernard, dans un numéro de moi, la liberté, c'est bon, mais madame, vous n'allez pas faire du vélo pour quitter le domicile conjugal. Je dis, Sarah, sur ce coup, m'a beaucoup déçue. Alors, comme dans la plupart des sports, sont donc les femmes du monde, en fait, qui vont, les aristocrates, qui elles s'en fichent complètement de passer pour un peu des excentriques, qui vont donner l'exemple et afficher leur passion pour ce partenaire technologique de la femme nouvelle. La reine Marguerite de Savoie, grande mordue de vélo, mais aussi et surtout, évidemment, vous la connaissez bien, c'est femme, une souveraine, toute jeune fille cette fois, la reine Wilhelmine des Pays-Bas.
Ah oui.
Elle a 10 ans lors de son accession au trône en 1890 et elle circule son complexe sur un vélocipède dont on sait combien elle deviendra populaire en Hollande. Elle est accueillie en France en 1898. C'est Stéphane qui va nous raconter la fin. Elle est accueillie en France en 1898 et c'est elle qui va donner son nom français aux deux roues. désormais qualifiée en son honneur.
De petite reine.
Exactement.
Mais non, mais
voilà. Et oui.
Mais oui, vous ne le saviez pas.
Mais non, je ne le
la
savais pas.
La petite reine, c'est à cause de Wilhelmine des Pays-Bas.
Et vous disiez que
c'était
un petit peu.
La mère de Juliana, la grand-mère de Béatrix et l'arrière-grand-mère de Wilhelm Alexander.
Mais vous êtes incollable.
Voilà. Et bien, elle pédalait.
Et oui.
Merci Clémentine. À demain pour une nouvelle plongée dans les coulisses de l'histoire.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. 2 heures pour avoir quelque chose d'intéressant à raconter tout à l'heure en rentrant à la maison. 2 heures également pour déterminer si oui ou non Stéphane Bern, l'illustre monsieur patrimoine, a trafiqué son CV ou s'il s'y connaît vraiment en histoire. Pour l'instant, son bilan comptable dans le quiz, à savoir 9 défaites en 12 confrontations, ne plaide pas en sa faveur. Mais sait-on jamais, on a parfois vu rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. D'un côté donc, Clémentine Portier-Kaltenbach, de l'autre, le vieux volcan. Jouons à Burn to be Alive. Des questions, des réponses, c'est ce qu'on appelle un quiz. Première question, Stéphane. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, un drame se joue dans l'océan Atlantique Nord. Drame qui va inspirer My Heart Will Go On de Céline Dion quelques années plus tard. Mais au fait, qu'est-ce qui a coûté le plus cher? Le film Titanic ou le Titanic lui-même?
Ah, c'est beau comme question.
Oui, c'est beau. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'histoire?
Non, je vous en prie, c'est tout à fait une question d'histoire.
Ce qui a coûté le plus cher.
Mais soit le paquebot, le Titanic, soit le film de James Cameron.
Moi, je dirais le film.
Moi, je dirais le paquebot.
Alors, parce que quand je vois le cachet, d'abord entre Céline Dion qui chante.
Oui, mais enfin, Stéphane, il y a eu la grosse opération, c'est la réalisation du Titanic au Mexique, là, avec cette carlingue, enfin, la coque du bateau sur des vérins hydrauliques, c'est un truc insensé. Ça doit être monumental. Mais enfin, si on parle en dollars courants, j'imagine que le bateau a coûté plus cher.
Votre réponse, Stéphane,
le bateau lui-même.
Clémentine vous a bien aidé.
Oui, elle m'a
à
bien
vous planter, puisqu'effectivement, bien joué, Clémentine. C'est le film qui a coûté plus cher. Alors,
vous voyez, les auditeurs ont bien compris que moi j'étais pour le film et que Clémentine.
Mais vous êtes souvent en reprise,
Le bilan comptable ne sera pas bon pour vous néanmoins. 7,5 millions de dollars, c'est ce qu'a coûté le Titanic, le bateau, une somme qui ramenée au taux de 1997 correspond à 150 millions de dollars. Mais le film, lui, a coûté 200 millions.
Oh,
et encore, James Cameron a renoncé à son salaire. Mais vous savez combien il a rapporté? 1,8 milliard de dollars.
Extraordinaire.
Et moi, je me souviens, à l'époque de la sortie du film, j'étais un jeune adolescent et j'avais hâte de le voir. Et le film devait couler, normalement, les studios. Justement, c'était la blague. Le film avait coulé le studio qui l'avait produit parce que ça avait coûté beaucoup, beaucoup plus cher, 2 fois plus cher que le prix initial du film et que James Cameron avait dû renoncer à son salaire.
C'est là où je vois que le vieux volcan ici, c'est moi. Parce que pour l'argent, j'y comprends rien. Là, vraiment, je vous ai planté. Non, je vous en fais mes plates excuses.
Vous êtes pardonné, ce n'est qu'un jeu.
Oui, mais on compte quand même.
J'aime bien gagner tout de même.
Clémentine, justement, Astérix est un Gaulois inventé. Vercingétorix, un vrai Gaulois. Et Biturix, vrai ou faux Gaulois?
Je pense que Biturix est un vrai Gaulois parce que les Bitures étaient une tribu gauloise qui ont donné le mot se biturer, qui a un rapport au cépage, au pinard, autrement dit. Donc je réponds oui.
Biturer, ça vient de là?
Oui.
Biturix, c'est vrai, ça existait. Oui. Dans la Nièvre, des archéologues ont trouvé des poteries signées Biturix. Il y avait marqué « Fecit Biturix », qui correspond à « Fait par Biturix ». Donc, un point pour vous, Clémentine.
Merci.
Ce qui fait donc 1-0. Je le rappelle, Stéphane.
Bien sûr.
Stéphane, c'est le moment de vous rattraper. Le Spritz, boisson que vous connaissez assez bien, je crois, doit son invention à l'Allemagne nazie. Vrai ou faux? Essayez de vous souvenir. Vous en avez bu quelques-uns cet été.
J'y étais pas. Non. Le Spritz, c'est une boisson qu'on boit en Italie, surtout.
Je vous demande pas où on la boit.
Oui.
Ou qui l'a relancée. Je vous demande d'où elle vient.
Écoutez, moi, j'avoue que je suis un peu dans le Schwarz.
Dans le Schwarz le plus complet, là. Mon cher Stéphane.
Oui, je dirais que l'Allemagne nazie a inventé le Spritz.
Bien sûr. Et c'est encore une mauvaise réponse de Stéphane Bern. Le Spritz naît au début du XXe siècle. En Italie, Stéphane, tout le monde le sait que le Spritz, c'est italien. Mais tout le temps.
L'Allemagne nazie, naturellement, a inventé le Spritz.
Alors, parce que vous êtes tellement pervers.
Oui, mais d'où vient la question? Parce qu'à chaque fois, il y a quand même une explication pourquoi est-ce que cette question aurait eu du sens. C'est qu'il y a une autre boisson qui est née en Allemagne nazie, alors qui est vraiment étonnante. Et non, le Fanta. À cause de la Seconde Guerre mondiale, la filiale allemande de Coca-Cola n'arrivait plus à produire la marque phare Coca-Cola. Du coup, ils lancent un produit de substitution à base de résidus de pommes. Les Allemands s'en servaient comme bouillon de soupe. Alors, quand les jeunes boivent du Fanta aujourd'hui, voilà d'où ça vient. Question numéro 4. Elle va vous départager, même si Clémentine a quand même un coup d'avance. Juillet 1911, Bobby Leach devient le premier homme de l'histoire à sauter dans les chutes du Niagara dans un tonneau et en sortir indemne. Qu'est-il devenu 15 ans plus tard? 3 propositions. Il a inventé le ruban adhésif.
Il a remporté l'US Open de tennis, il a glissé sur une pelure d'orange et il en est mort.
C'est, pour moi, c'est la 3. Je crois qu'il est mort très bêtement. Je l'aurais raconté avec une peau de banane, d'ailleurs, probablement. Moi, je pense que c'est la 3.
Stéphane ?
Je pense aussi, mais je vais dire l'Open de tennis.
Ah oui, là, c'est terrible. C'est le grand chelem de la loose pour Stéphane. Effectivement, il a glissé sur une pelure d'orange, fracture de la jambe qui s'infecte, amputation, complication et décès. Ah oui, c'est quand même complètement con. Quand on a sauté dans les chutes du Niagara,
mais vous allez
mourir bêtement.
Oui, la loose. Mais c'est pas grave, c'est pas vraiment des questions d'histoire, c'est des questions de.
Oui, vous pouvez vous consoler en vous disant ça. C'est Clémentine qui remporte le quiz.
Europe 1, historiquement vôtre.
Qui n'a jamais rêvé un jour d'avoir la classe de Jackie Kennedy Onassis ?
Et avoir son compte en banque.
Oui, Stéphanie, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Regardez, vous avez bien signé Europe 1. Non, Jackie Kennedy, c'est évidemment un destin hors norme, mais aussi une rivalité hors norme avec sa sœur Lee Radziville, l'une a épousé un président, l'autre un prince. Entre elles, la compétition fit rage dès l'enfance.
Oui Mathieu, je vous raconterai l'histoire de cette rivalité dans la deuxième heure de notre historiquement vôtre spécial drôle de sœur. Rappelez-vous quelle sœur vous avez choisi
Pourquoi,
la
Stéphane?
Version contemporaine.
Ah, sœur Elton John, Stéphane.
Ah, bah, oui, voilà.
Vous dites que c'est n'importe quoi, que ça n'a aucun sens, mais vous aussi parfois on ne comprend pas tout ce que vous dites, vous savez. Hier vous avez dit ça par exemple.
J'ai dit, vous connaissez la devise des, je crois que c'est des Rouen, roi ne puis, prince ne daigne, Rouen en suit. Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Les Rouen par Rouen.
Oui, ben on comprend rien ce que vous dites. Moi, j'ai entendu la ville de Rouen. Vu le degré de surréalisme que vous insufflez à cette émission, je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de Sir Elton John dans notre spéciale Sir.
Sir. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement vôtre. Une approche gourmande, voire même, en ce qui concerne Mathieu Noël, gloutonne de l'histoire. Deux heures, une thématique, trois personnages. Aujourd'hui à l'honneur, les drôles de sœurs de l'histoire.
Oui, et comme on est une émission rieuse, Stéphane a évidemment choisi pour illustrer le thème des sœurs la musique de Virgin Suicide. C'est vrai que ceux qui ont vu savent à quel point ça se finit bien. Heureusement, je serai là pour apporter une touche plus joviale à cette émission. Avec déjà, oui, des reprises de la compagnie Cole à l'orgue numérique libre de droit qui nous permettront de renouer avec une forme de gaieté, mais aussi en vous brossant le portrait de notre troisième personnage. Vous savez que chaque jour, j'essaye de vous dégoter un perso un peu moins poussiéreux que ceux évoqués avec des étoiles dans les yeux par Stéphane. Parfois même, je vais jusqu'à vous parler de personnages encore vivants. Ça choque les amateurs de momies comme vous, mais c'est ainsi. Aujourd'hui, pour notre spéciale sœur, juste après votre récit sur les sœurs Jackie Kennedy et Lee Radziville, je vous parlerai de sœur Elton John. Et je connais ce regard, Stéphane. Vous aviez le même la première fois que vous avez entendu la chanson de Tom Leb qu'il voulait présenter à l'Eurovision. Eh bien, essayez de voir le bon côté des choses. J'aurais pu faire Sœur Sourire. Sœur aussi. Sœur Sourire dont vous connaissez le petit secret, Stéphane.
Non, c'est lequel?
Vous ne connaissez pas le secret de Sœur Sourire? Oui, vous le connaissez, mais vous n'osez pas le dire à l'antenne. Oui, elle aimait bien les femmes. Enchaînez.
Mais moi aussi. Au programme de cette deuxième heure,
beaucoup de scoop,
après nos trois autres drôles de sœurs, oui. Comme un pont entre le passé et le présent. Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, nous raconte l'histoire des recettes et de la cuisine. Avec lui, on s'intéresse aujourd'hui à la renversante histoire de la tarte tatin. Et c'est l'histoire de sœurs, vous savez, c'est deux, les sœurs tatin.
Mais bien sûr que je le sais, mais vous prenez vraiment pour un ignare.
Non.
Parfois, vous avez raison. Là, il se trouve que je le sais.
Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots.
Ah oui.
J'aurai comme tous les jours le mot de la fin et aujourd'hui, je vous raconterai pourquoi on dit mise en bière.
Appétissant menu, mon cher Stéphane, mais à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par votre deuxième récit. Une triste affaire de rivalité entre sœurs Jackie Kennedy et Lee Radziville.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, deux heures où deux animateurs vous racontent l'histoire sans se la raconter. Moi, c'est Mathieu Noël.
Qui donc ?
Mathieu Noël, le type qui conime avec toi l'émission Stéphane. Et bien sûr, Stéphane Bern, qui nous parle à présent de deux sœurs qui ont passé toute leur vie à se tirer la bourre.
Historiquement vôtre. Le récit.
Vous parlez, Mathieu, de deux sœurs, Jacqueline et Lee Bouvier. La première est plus connue sous le nom de Jackie Kennedy, First Lady, épouse du président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald.
Je connaissais
Kennedy.
Pas celui-là. Je connaissais Fitzgerald Kennedy, mais un
oui,
nouveau.
Oui, mais parfois vous savez.
Ça c'est le quiz, ça vous déstabilise. Ensuite, vous perdez un peu de votre superbe Stéphane.
Oui, mais je suis un homme comme les autres. Sa cadette Lee a quant à elle épousé un prince polono-lituanien, Stanislas Radziville. Les deux sœurs ont fait de prestigieux mariages, Ce n'est pas étonnant puisqu'elles ont été élevées dans l'idée que la fortune et le pouvoir sont ce qu'il y a de plus important et qu'en général, ça se trouve au fond d'un lit. Et en la matière, Jackie, célèbre et richissime, a surpassé Lee. La cadette, même si elle ne s'en est pas trop mal sortie, est restée dans l'ombre de son aîné toute sa vie. Nous sommes le 17 octobre 1968.
Nous sommes le 9 septembre 2020, Stéphane, reprenez-vous.
Oui, mais enfin, imaginez, essayez de revenir en arrière.
Il n'y a pas eu de petite musique, d'habitude il y a une petite musique qui nous transporte dans le temps.
Ah pardon, nous sommes donc le 17 octobre 1968. Branle-bas de combat à l'aéroport de New York. Les passagers de la compagnie Olympic Airways, prêts à s'envoler pour Athènes, apprennent que leur vol est annulé. Ce que personne ne sait, c'est que quelques minutes plus tard, un avion va bien décoller avec à son bord Jackie Kennedy, presque 40 ans, la veuve du président JFK, ses enfants, ses parents et ses belles-sœurs. Direction l'île de Scorpios, en Grèce, où le mariage de Jackie avec le milliardaire Aristote Onassis a été organisé avec le maximum de discrétion. Seule la famille proche et les intimes ont été conviés. Lee, la sœur de Jackie, est là, évidemment. Pourtant, elle aurait eu une bonne raison de ne pas venir.
Ah bon ?
Oui, pendant plusieurs années, elle a été la maîtresse d'Aristote Onassis et a même espéré l'épouser avant que Jackie ne le prenne dans ses filets. Elle était un peu, voyez-vous, la goûteuse de Jackie. Oh, elle testait les hommes avant,
c'est joliment
avant
dit,
elle.
Stéphane. C'est joliment dit. Mais c'est la thématique du jour, en fait.
Oui, c'est ça, drôle de sœur.
C'est des sœurs qui se piquent des mecs entre elles.
C'est ça, Mathieu. Et cette guerre entre sœurs commence dès l'enfance. Les deux petites filles, après le divorce de leurs parents, rivalisent pour devenir la préférée de leur père, Jack Bouvier. Il faut dire qu'elles le voient peu et admirent cet homme si beau et élégant qui les gâte trop. Il les emmène dans les plus belles boutiques, les meilleurs restaurants, les laisse se gaver de glace au chocolat et offre même une jument danseuse à Jackie.
Une jument qui danse ? C'est fou.
Non, danseuse, c'était le nom de la jument. Revenons aux origines, si vous le voulez bien. Jackie est née le 28 juillet 1929. Lee, le 3 mars 1933. Avec seulement 3 ans d'écart, elles sont fusionnelles, mais aussi très différentes. Jackie, très sûre d'elle et charismatique, impressionne sa cadette qui l'admire. Quand elle joue, c'est toujours Jackie qui joue le rôle de la princesse, tandis que Lee campe celui de sa dame de compagnie. Les deux sœurs s'adorent, mais se retrouvent vite entraînées dans une compétition orchestrée par leur propre mère, Janet Auchincloss. Surtout, Lee, qui, bien que très jolie, manque de confiance en elle. Ma mère me répétait sans cesse que j'étais trop grosse, que je ne pouvais pas me comparer à ma sœur, confie-t-elle au New York Times. Janet Auchincloss voit grand pour ses deux filles. Elle les inscrit dans une école d'élite. On y apprend les bonnes manières, l'équitation, la danse, le maintien, la diction. Bref, tout pour devenir une épouse modèle. En 1952, les fiançailles de Jackie Bouvier avec le courtier John Husted sont annoncées. Mais la jeune femme et sa mère déchantent en apprenant que John ne gagne que 17 000 dollars par an.
Donc elle fait tuer le mariage.
Bon, ça ferait quand même aujourd'hui plus de 160 000 dollars aujourd'hui. Mais ce n'est pas assez pour une demoiselle Bouvier.
Ah bah non, c'est rien.
Jackie rend sa bague au pauvre, si je puis dire, au pauvre bon, John.
Oui, oui, elle doit être en toc en plus.
Non, elle était vraie. Voilà Jackie de nouveau célibataire. C'est horrible de congédier un fiancé sous prétexte qu'il ne gagne pas assez d'argent. Bref. Passons. C'est l'occasion pour Lee de coiffer sa sœur aînée au poteau. En avril 1953, elle épouse Michael Canfield, l'héritier d'une grande maison d'édition. Mais quelques mois plus tard, retournement de situation. Jackie Kennedy épouse John Fitzgerald Kennedy, sénateur prometteur du Massachusetts.
Prometteur, mais je peux vous dire qu'il va lui arriver 2-3 bricoles. Hein. C'est pas la classe à Dallas, si vous voulez que je veux dire.
Attendez
si vous voyez
un
ce que je veux
peu,
dire.
Mathieu, c'est trop tôt. Leur mariage bat de l'aile. Les infidélités de JFK sont de notoriété publique. Jackie songe à divorcer. On raconte même que son beau-père, Joseph Kennedy, lui offre 1 million de dollars pour la convaincre de rester. Lee, de son côté, saute le pas et divorce en 1958. Âgé de 27 ans, Lee va bientôt annoncer une incroyable nouvelle.
Mais laquelle, Stéphane ? Dites-nous vite !
Bah, je vous laisse faire vos pronostics.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue dans un suspense digne des meilleurs polars danois. Stéphane Bern nous fait mijoter. On suit les destins croisés des sœurs Bouvier, Jackie et Lee. On était à peu près, je dirais, à un partout la balle au centre. Quand soudain, Stéphane ?
Quand soudain, Lee Radziwill, puisque c'est de Lee Bouvier, se remarie. Cette autre fois avec justement un prince polonais, Stanislas Radziwill. Elle est désormais la princesse de la famille. Mais voilà qu'en 1960, sa sœur devient première dame quand JFK devient le 35e et plus jeune président des États-Unis. encore une fois, c'est Jackie qui occupe le devant de la scène.
Elle a vraiment les boules, là, Lee, à ce moment-là.
Bah forcément, Mathieu. Lee Radziwill aussi, elle est très ambitieuse. Après un mariage princier et deux beaux enfants, elle rêve de célébrité. Alors au cours des années 60, elle se lance dans une carrière d'actrice qui sera vite avortée. Si le public la connaît, c'est par l'entremise de sa célèbre sœur, première dame adulée des Américains et du monde entier. Dès 1962, la princesse Lee Radziwill s'éloigne de son mari au profit de l'armateur grec Aristote Onassis.
Tiens donc.
Leur idylle bascule quand Jackie perd son dernier enfant en août 1963. Elle n'arrive pas à remonter la pente. Lee Radziwill et Aristote Onassis lui proposent de se joindre à eux pour une croisière réparatrice sur le luxueux yacht d'Onassis. Dès son arrivée, le milliardaire est aux petits soins pour son invité. Jackie Kennedy occupe la plus belle suite. Trois chefs se relaient chaque jour pour concocter les mets les plus fins. Les cales sont pleines de fruits exotiques venus du monde entier, des vins, du caviar. À la fin du voyage, Aristote Onassis offre à chacune des deux sœurs un bijou. Jackie Kennedy reçoit un collier en rubis et Lee Radziwill trois bracelets en diamant. Lee est jalouse, elle aurait préféré les rubis. Et Aristote Onassis montre un peu trop d'empressement et d'intérêt pour sa sœur aînée.
C'est vrai que trois bracelets en diamant, ça fait un peu chiche quand même.
Quelques semaines plus tard, le 22 novembre 1963, JFK est assassiné à Dallas. La disparition de son mari anéantit Jackie. Elle ne s'alimente plus et a tendance à noyer son chagrin dans l'alcool. Une nuit, elle avoue à sa sœur qu'elle a envie d'avaler des somnifères et de la vodka, qu'elle espère ne plus jamais se réveiller. La cadette se précipite en catastrophe chez son aîné. Rongée d'inquiétude, elle demande ensuite à Aristote Onassis de veiller sur Jackie lorsqu'il se trouve à New York. Ce dernier ne se fait pas prier et rend très souvent visite à l'ancienne première dame.
Il lui rend visite comment, Stéphane? Dans quel but?
Un tel empressement de la part de son amant finit par inquiéter Lee. Elle a bien raison. Onassis invite Jackie en Grèce. Lee aussi est invité. Elle a en rage de voir le milliardaire faire la cour à Jackie sous son nez. Mais cette dernière semble conquise. Elle rit pour la première fois depuis longtemps. Et la rancune de Lee fond devant le bonheur tout neuf de sa sœur aînée. Le 17 octobre 1968, le mariage de Jackie Kennedy avec Aristote Onassis est annoncé publiquement. C'est un véritable tollé. Les journaux incendient Jackie. Comment peut-elle épouser cet Onassis? Il est vieux, il est étranger, il a des airs de parrain de la mafia. Le mariage est célébré le 19 octobre 1968. Un nouveau bonheur commence pour Jackie O, Jackie Onassis, mais il sera de courte durée. Son mari meurt 7 ans après leur union. Il laisse à sa veuve une petite fortune. Elle n'a pas besoin de travailler. Pourtant, elle s'engage comme conseillère dans une maison d'édition. À 50 ans, elle trouve aussi le bonheur dans les bras de Maurice Templesman, son conseiller financier. Une cousine de ce dernier déclare « Jackie a épousé son premier mari pour acquérir un statut social ». Et le deuxième pour la sécurité financière. Cette troisième relation est fondée sur l'amitié et le respect mutuel. Dans le fond, c'est la plus saine de toutes.
Oui, il n'y a pas d'amour dans tout ça. À chaque fois, il y a un autre intérêt que l'amour.
Vous avez raison, Mathieu.
C'est terrible. Mais... Moi, ça oui. brise mon petit cœur, oui. Stéphane.
Mais l'amour, c'est pour nous, les pauvres.
Cette phrase.
Oui. De son côté, Lee quitte le prince Radziwill pour épouser un producteur hollywoodien, 14 ans plus tard. Le 19 mai 1994, Jackie Onassis s'éteint des suites d'un cancer. Ses enfants reçoivent $1 million chacun. Lee, quant à elle, n'hérite pas d'un centime. « Je n'ai rien accordé à ma sœur Lee Radziwill, pour qui j'ai une grande affection, dans ce testament, car je lui ai déjà tant donné de mon vivant. » Peut-on lire sur le testament?
Et cette pauvre Lee, alors? Quelle garce, c'est votre
Lee
analyse, oui.
Vivra 25 ans encore après la mort de Jackie. À 68 ans, elle entame sa troisième procédure de divorce. Pour la première fois jusqu'à sa mort, le 15 février 2019, elle fait le choix de rester célibataire. Sans doute parce que sa rivale préférée, Jackie, n'était plus là pour la challenger.
Europe 1, historiquement vôtre.
Une seule personne connaît mieux les sœurs Bouvier que vous, Stéphane. La preuve avec notre invitée romancière qui a écrit un livre qui s'intitule « Jackie et Lee » chez Albin Michel. Bonjour Stéphanie Déor.
Bonjour.
Au fond, ce testament de Jackie O, qui fait en sorte que Lee Radziwill, sa sœur cadette, n'hérite de rien. C'est sa dernière vengeance. Parce que Jackie, elle n'a rien donné à sa sœur. C'était vraiment une rivalité.
Bien entendu, Jackie ne lui a jamais rien donné. Mais c'est Lee qui a passé son temps à demander. Donc en fait, ce que voulait Jackie, c'est une relation amour-haine. Jackie passe son temps à piétiner Lee. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Lee a pardonné à Jackie d'avoir épousé Onassis. Non, Je ne suis pas d'accord. Lee a juste pardonné quand Jackie lui a donné Peter Baird. Jackie a invité à Scorpios le photographe magnifique, beau gosse, comme il en existe peu, Peter Baird. Et là, Lee a pu pardonner. Mais il n'est pas question de pardon, il est juste question de deux sœurs, c'est à qui gagnera. Et c'est toujours Jackie qui gagne, jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Restez sur Europe 1. Stéphanie Dehors explique à Stéphane Bern la vraie histoire qu'il a mal racontée juste avant.
Oh non, mais okay, je vous interdis de dire ça.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est un cocktail encore plus simple que l'amaretto sour et que vous pouvez en plus consommer en roulant. Bienvenue dans Historiquement Vôtre. Un tiers de Stéphane Bern, un tiers de bonne humeur et un tiers d'invités spécialisés dans les sujets que nous évoquons. Aujourd'hui, on parle des sœurs célèbres de l'histoire, des drôles de sœurs plutôt, de l'histoire. Et avec vous, Stéphanie Dehors, on évoque le destin de Jackie et Lee Bouvier.
Votre livre, d'ailleurs, c'est plus un roman d'ailleurs qu'une enquête journalistique, parce que vous êtes avant tout romancière. Ce qui vous a intéressé, c'est cette rivalité de deux sœurs, qui est une rivalité totalement romanesque, en fait.
Oui, mais... Attendez Stéphane, au début je voulais écrire le livre de Lee. C'est ça qui est fascinant. Je voulais raconter l'histoire de cette femme que je trouvais belle et tout ça.
Mais elle était ennuyeuse, enfin pardon.
Mais
moi je l'ai bien connue, elle
mais
était très ennuyeuse.
Mais je m'en suis rendu compte et plus je m'intéressais à Lee, plus c'était Jackie qui surgissait. Et donc, je me suis dit, je vais écrire Lee dans l'ombre de Jackie. Mais Jackie a pris toute la place parce qu'elle est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus perverse. Et cela a donné Jackie et Lee.
Lee avait hérité de quoi au fond ? Elle était la pâle, elle goûtait les hommes avant, puisqu'elle, je crois qu'elle avait eu JFK avant sa sœur, elle avait eu Onassis avant sa sœur.
Pendant.
Il s'est tapé les deux sœurs aussi.
Mais oui.
Oh là là là.
Est-ce qu'il s'est tapé les deux sœurs en même temps ?
Non.
Ah
non.
C'est pas Louis XV non plus. Hein, c'est JFK.
Je pose la question, nos auditeurs ont envie de savoir.
Non. En fait, Jackie était mariée et l'on dit que. Alors, elle n'était pas encore première dame. Attention. John était juste sénateur. Mais Lee a eu une relation avec John au Cap d'Antibes.
Mais c'est vrai que leur relation aux deux sœurs est très ambivalente. Il y a de la passion, il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil. Et puis, il y avait une forme d'amour et d'affection aussi.
Bien sûr, mais Lee était pleine d'admiration pour Jackie. Toute petite, Lee se précipitait. Sa sœur était son dieu. Elle écoutait tout ce qu'elle lui disait. Quand elle est trop grosse, sa sœur lui donne de très bons conseils. « Mais ma petite chérie, je vais t'apprendre à vomir et tu vas maigrir. Ma petite chérie, je vais t'apprendre à fumer. » C'est ainsi que Lee, à 10 ans, est déjà anorexique et fume comme un pompier. Ouais. Elle fait tout ce que
elle
dit sa sœur.
Elle l'a été toute sa vie, parce qu'elle a fini vraiment... Enfin, c'était dramatique, elle était un fil de fer.
Elle se nourrissait de verres d'eau glacée.
Oui, c'est terrible. Enfin, non, de l'alcool.
D'alcool, absolument.
Ah oui, Stéphane, vous l'avez vraiment bien connue, cette Lee Radzivill, j'ai l'impression.
Oui, oui, très très bien.
Mais il y a un truc qui
est... Je me souviens d'une scène quand on a voulu lui remettre la Légion d'honneur chez Bernard-Henri Lévy, elle n'a pas pu la recevoir parce qu'elle était ivre mort. Enfin bref, passons. Mais c'est vrai que leur demi-frère les a définis comme deux piranhas dans un aquarium.
Oui, l'un s'appelle S comme Sado, l'autre M comme Mazo. Devinez qui est qui. Mais Gore Vidal n'avait pas sa langue dans sa poche.
Oui.
Avez-vous lu son journal ? Mais c'est extraordinaire. Vous n'avez que des piques, que des méchancetés, que des perversions. Mais il les descend, il les déteste. Et alors, pire que tout, Jackie, c'est là où j'ai tout trouvé. Dans le journal de Gore Vidal. Tout sur Jackie, toutes ses perversions.
En tout cas, c'est passionnant. Ouais. Merci Stéphanie Desordes d'avoir été avec nous. Pour tout savoir, il faut lire le livre de Stéphanie Desordes.
Jackie et Lee, paru chez Albin Michel.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, c'est comme une course de fond. Lorsqu'arrive le dernier kilomètre, oui, on est fatigué, oui, c'est dur, mais il faut tout donner.
C'est un peu comme Napoléon et ses hémorroïdes à cheval.
Oui, l'image est belle et idéale à l'heure du goûter, Stéphane, non, merci. Tout donner pour vous subjuguer et vous donner des billes pour épater vos proches ce soir au dîner, surtout.
Pour ce faire, mon cher Mathieu, je vous raconterai l'origine étonnante d'une expression. Olivier Pouls nous expliquera d'où vient la tarte tatin. Et Mathieu, vous ponctuerez notre spécial drôle de dame avec le portrait à 99% vrai d'un personnage contemporain. Il en faut un peu dans cette émission.
Mais oui, même si ça vous choque.
Une autre sœur.
Une autre sœur
Elton John.
Évidemment, l'icône de la pop rock anglo-saxonne de la fin du XXe siècle, dont vous connaissez évidemment, Stéphane, tous les tubes.
I love you, baby.
Ah non, c'est con, c'est pas lui, ça.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Découvrir, s'émerveiller, mais également déguster. Chaque après-midi vers 17h30, historiquement vôtre déroule un tapis rouge, quoique maculé ça et là de quelques traces de gras, à Olivier Pouls, notre gourmet de l'histoire. Une rubrique qui passionne Stéphane, grand cordon bleu s'il en est, doté je le rappelle d'une rutilante sorbetière à double rotor. Si vous deviez résumer en un mot ce que vous inspire la gastronomie française, Stéphane.
Saucisse.
Oui, c'est pour ça qu'on a embauché plutôt Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour mes amis.
Chaque jour, l'histoire d'une recette.
Mais on parle de sœurs aujourd'hui. aujourd'hui, et donc il me fallait vous conter voilà, l'histoire des plus célèbres sœurs de la cuisine française, les fameuses sœurs Tatin, ou comme prétend la légende, lorsque la maladresse vous rend célèbre, finalement, un peu comme si vous, Mathieu, lorsque vous aviez confondu les olives et les cerises pour faire une forêt noire, on aurait inventé un nouveau gâteau qui se serait appelé, je sais pas moi, le gâteau Noël, voyez-vous, mais
ça serait ça
marche pas à tous les coups, et c'est vrai que l'histoire de la cuisine est jonchée de légendes comme ça.
Mais c'est une légende ou c'est la vérité,
alors,
Olivier?
C'est une légende. Alors, oui, je suis bien obligé de casser un peu votre rêve. Vous savez, il y a deux versions qui expliquaient la naissance de cette fameuse... Il y en a deux, en fait. Donc, les sœurs Tatin ont réellement existé. Hein. Elles étaient restauratrices et plutôt, d'ailleurs, bien connues. Elles avaient un hôtel à La Motte-Beuvron à la fin du 19e siècle. Elles y recevaient une belle clientèle. Et dit-on un jour, l'une des deux sœurs, Stéphanie en l'occurrence, il y a Stéphanie et Caroline, Stéphanie aurait été un peu maladroite en sortant la tarte aux pommes du four, banadra, elle la renverse, mais elle n'a pas le temps d'en refaire une autre, donc pop pop pop, on ramasse tout ça, et on le sert quand même, et aux merveilles, c'est bon les gars. Alors ça c'est une première version, il y a une deuxième version qui est plutôt sur l'étourderie, où elle aurait commencé sa tarte et elle aurait oublié en fait de mettre la pâte dans le fond du moule, alors, franchement c'est pas très malin, elle aurait décidé de la mettre au dernier moment, et donc c'est pour ça que c'est une tarte inversée. En réalité, malheureusement, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Elles ont tout simplement réalisé une recette qui était déjà bien connue à l'époque depuis plusieurs décennies. Oui, qui était une recette traditionnelle, familiale, qu'on réalisait en Sologne. Et elles n'ont pas fait grand-chose. Si ce n'est qu'elles la faisaient particulièrement bien. Et qu'un jour, un certain Louis Vaudable, propriétaire du célèbre restaurant Maxim's à Paris, est venu manger là. Il a été subjugué par ce dessert. Il aurait demandé la recette, elles auraient dit non. Du coup, il a envoyé un de ses pâtissiers pour espionner, qui s'est fait embaucher comme ça pour ramener la recette. Et c'est ensuite chez Maxim's à Paris que la recette est vraiment devenue populaire. Et comme le gars était plutôt sympa et pas bégueule, il a quand même accepté de donner, pour rendre hommage aux sœurs Tatin, ce nom de tarte Tatin.
Et est-ce qu'on la mange avec... Il faut la manger avec un petit peu de crème ou une boule de glace? Alors, quelle est la
une boule de glace ou de la crème crue. Mais alors, surtout, la recette de la tarte Tatin est simplissime. Et c'est ça qui est franchement sympa.
Même Stéphane et moi, on peut la réussir.
Expliquez-nous comment on fait une bonne tarte Tatin.
Eh bien, vous prenez 150 g de beurre, 150 g de sucre. Avec ça, vous faites un caramel. Donc, vous faites fondre le sucre tout d'abord, dès qu'il commence à avoir une jolie couleur un petit peu ambrée. Vous rajoutez le beurre. Attention, ça éclabousse un petit peu. Vous roulez dedans des quartiers de pommes. Alors en ce moment, c'est le début de la saison. Prenez des pommes que vous avez épluchées. Vous mettez tout ça au fond d'un moule à tarte. Vous recouvrez avec une pâte brisée et vous mettez dans un four à 200 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, vous n'avez plus après qu'à démouler et vous avez une magnifique tarte Tatin simplissime. Un peu de crème crue ou de glace à la vanille et votre dessert est prêt.
Vous pouvez faire des glaces avec votre sorbetière?
Je vais essayer.
Ou que des sorbets, je ne sais pas.
J'ai des pommes en ce moment, je peux vous apporter des pommes.
Vous avez des pommes, il faut préciser, vous n'avez pas des pommes, vous n'avez pas acheté des pommes au marché, vous avez des pommes dans votre domaine.
Dans mon jardin.
Dans votre jardin, oui. Votre jardinet même, disons-le.
Pour demain, mon cher Stéphane, on vous attend ici à la même heure avec une belle tarte Tatin pour prendre le goûter.
Très bien, on va faire ça. Mais écoutez, en tout cas, on vous retrouve, vous, Olivier Pouls, comme chaque samedi à 11h dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
Europe 1, historiquement vôtre.
Est-ce que vous jouez du piano?
Non, j'ai eu joué dans mon enfance.
Est-ce que quand vous jouiez dans votre enfance, vous jouiez debout ou pas?
Non, ça c'est...
Eh bien oui, lui oui. Vous me direz, que vient foutre un portrait d'Elton John dans une émission consacrée aux sœurs célèbres de l'histoire? Elton John a été anobli par la reine il y a quelques années. C'est donc désormais Sir Elton John. Et toc, on est pile dans la thématique. Bravo qui? Bravo Bibi.
16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Chaque jour, il complète la trilogie de nos personnages à sa manière, d'où le titre de sa chronique 99% vrai. C'est vrai que moi, je donne deux personnages historiques du passé, et lui, c'est un peu l'homme du contemporain. Aujourd'hui, j'espère au moins, Mathieu, que vous avez respecté la thématique, les sœurs célèbres de l'histoire.
Comment pouvez-vous imaginer une seconde que je ne respecte pas la thématique de notre émission, Stéphane? Rassurez-vous, je suis pile dedans, puisque pour être célèbre, ça croyez-moi, il est célèbre, et pour être sœur, il l'est aussi. Je vous parle aujourd'hui de Sir Elton John. Alors, pour situer, si jamais des jeunes nous écoutent, Elton John, c'est une superstar de la pop, mais à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il se produisait aussi dans des grands stades pleins à craquer, mais que contrairement à Miley Cyrus et Justin Bieber, il savait à la fois chanter juste et jouer de la musique. Oui, ça paraît dingue, avec le recul des ans, on croyait à l'époque bêtement que ça pouvait contribuer à la qualité du spectacle, à la magie du moment. On était cons. Ce n'est que bien plus tard, avec l'invention de l'autotune, qu'on a découvert que savoir chanter n'était qu'un bonus pour un chanteur. L'important étant évidemment, on le sait aujourd'hui, que sa vie soit instagrammable. Heureusement pour lui, le futur Elton naît bien avant la création de l'autotune, en 1947, dans une bourgade anglaise au nom prophétique, quand on sait son avenir de serial lover, la ville de Pinner. Milieu modeste, mère au foyer, père militaire, rien ne laisse présager que le petit Reginald Kenneth Dwight, c'est son nom avant de se rebaptiser Elton John, deviendra un jour une légende du rock. Alors les chiffres donnent le tournis, hein, aujourd'hui Elton John c'est 300 millions de disques vendus dans le monde, 18 000 montures de lunettes fabriquées spécialement pour lui et 8 965 costumes, donc 8 962 roses fluo. Derrière ce succès, des tubes immenses, éternels, de ceux qu'on a tous chanté un jour, torchés au gin tonic au fond d'un karaoké de Belleville. Stéphane, à vous.
Là, vous auriez pu me donner les
It's paroles. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can
easily ride. Don't have much money, but...
don't have much money, celle-ci, elle est bonne pour vous. Bah, il était bien dosé, votre ginto. Bref, son père, il voit d'un mauvais œil les velléités musicales de son fils et lui répète en boucle...
Si tu continues sur cette pente, tu finiras comme un clochard drogué.
Eh bien non, papounet John Elton ne finira pas clochard drogué. Enfin, il finira pas clochard, quoi. Moins rigide que le papounet, sa maman, elle, encourage le petit Elton, décrit comme un enfant dodu et complexé dans ses envies de musique. Vers l'âge de 11 ans, ne sachant guère comment occuper ses doigts, il commence à tripoter le piano au milieu du salon. C'est bien la seule chose qu'il tripote à cette époque-là. Elton est un petit garçon extrêmement solitaire qui s'invente des amis imaginaires. Sinatra vient boire le thé dans sa mezzanine. La reine Elisabeth devient une grande sœur fictive avec qui il joue au qui-est les dimanches de pluie. Bref, c'est ce que les pédopsychiatres appellent aujourd'hui le syndrome Bern. Tout ça peut très mal tourner, comme vous le voyez avec le monsieur à mes côtés. Heureusement, son don pour la musique va sauver Elton et lui permettre d'intégrer la Royal Academy of Music. Élève brillant, il quitte néanmoins l'école sans attendre d'être diplômé, commençant à jouer dans des petits bars. En 1962, Reginald Dwight devient Elton John. Et en 1967, c'est la rencontre. Ça, c'est important. Avec un dénommé Bernie Taupin, le type qui va lui écrire Your Song, Rocketman et les 4/5 en fait de ses tubes. Grâce à lui, la carrière d'Elton décolle. Dans les années 70, il réalise 17 albums en 9 ans. Quand il revient voir son odieux papou qui a l'audace de lui demander un autographe, mais pas pour lui, pour un ami, c'est en Rolls qu'il le fait. Il enchaîne les tournées dans le monde entier parce qu'il marche aussi aux États-Unis, où il crée d'ailleurs sa maison de production. Période faste qui a néanmoins sa part d'ombre. Vous ne pouvez pas imaginer quel genre d'égoïste j'étais devenu, déclare aujourd'hui Elton John. C'est en partie dû aux drogues. J'étais dévoré par l'alcool, la cocaïne et je ne sais quoi d'autre. Quand on ne sait quoi d'autre, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de choix au buffet. Preuve, cette autre citation célèbre d'Elton. Parfois, lorsque je suis en avion au-dessus des Alpes, je me dis, ça ressemble à toute la cocaïne que j'ai sniffée. Roi incontesté des charts, dans les années 80, Elton mène la grande vie. On lui prête des aventures avec un paquet de célébrités. Certaines sont totalement fausses, hein, notamment celle avec vous, Stéphane.
En fait, non. C'est-à-dire que ça rentrait pas dans le bon sens.
Non. Plus de détails sur le site europe1.fr après avoir coché la case, j'ai plus de 18 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est aujourd'hui une icône gay, hein, il l'assume pleinement. Il a d'ailleurs deux enfants avec son mari David Furnish. Elton John avait à l'époque choqué ses fans à la fin des années 70 quand il avait fait son coming out. C'est vrai que ça a dû leur faire un choc, Stéphane. Hein. Aucun signe avant-coureur. On parle juste d'un chanteur qui a grandi dans un petit appartement avec sa maman et sa mamie, qui s'habille en jupe à paillettes et qui chante. Daniel, tu me manques, Daniel. Comment Elton John, gay? Il manquerait plus qu'on apprenne que les Village People aussi et ça serait le pompon. Heureusement, il restera toujours George Michael. En 1998, ça y est, Elton est anobli par la reine. Il est fait commandeur et chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Comme on dit à Buckingham, ça claque bien sa mère comme titre. Enfin, 15 juillet 2014, Elton John se lance dans ce jeu très prisé des artistes qu'on appelle le Sardou Bluff. Jeu qui consiste à faire croire que c'est ta dernière tournée, alors que si jamais en fait t'as besoin de blé derrière, ça sera pas tout à fait la dernière, mais ça sera trop tard pour que les gens exigent un remboursement pour publicité mensongère. Là donc, normalement, à l'heure où on parle, Stéphane, Sir Elton ne remontera plus sur scène. Il se consacre à sa vie de famille et surtout à son mari, David Furnish. Si vous voulez leur envoyer un petit cadeau pour leur noce de cristal, c'est cette année, 15 ans, n'hésitez pas, mais attention, ils ont déjà reçu de très belles choses, notamment de la part du rappeur Eminem qui a envoyé, je cite, deux anneaux péniens incrustés de diamants. Très chic, très tendance. Vous qui faites toujours des saucières en porcelaine avec les armes des Bourbons, prenez-en de la graine, mon Stéphane. Soyez rock un peu pour une fois.
Merci Mathieu. C'était votre portrait toujours caustique de notre troisième personnage du jour. Vous savez que Elton John a écrit La Reine d'Angleterre en lui disant, mais voilà, je suis officier de l'Empire britannique, je suis chevalier, je suis... Et il a été anobli. Donc il a dit, mais voilà, si j'étais un homme avec une femme... ma femme serait Lady John. Donc, qu'est-ce que vous allez donner à mon mari, David Furnish ? Et la reine lui a répondu très aimablement, vous avez tout à fait raison. Rien ne justifie que votre mari n'ait pas de titre.
Il est lord aussi.
Et donc, non, il est The Honorable David Furnish.
Ah, c'est bien.
Ce qu'on donne, titre qu'on donne quand une femme... donc, quand vous êtes l'époux d'une femme qui a été anoblie par la reine.
Vous êtes anoblie en
non,
Angleterre,
Stéphane ? Je suis juste chevalier de l'Empire britannique.
Oh, vous êtes juste chevalier de l'Empire britannique, mais comme vous avez su rester simple, Stéphane.
Oui, je ne suis pas sœur père.
Sœur Stéphane, oui. Si vous n'êtes pas encore tout à fait sœur, je vous laisse le mot de la fin. Vous nous expliquez l'origine chaque jour d'une expression qu'on utilise tous les jours, sans forcément savoir d'où elle vient.
C'est dans un instant.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dès 16h dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots.
L'histoire des mots, c'est ce qui me passionne le plus dans cette émission, Stéphane. C'est une chronique que vous portez. Chaque jour, vous nous racontez l'origine d'une expression. Et je suis d'autant plus content aujourd'hui que je crois qu'on va parler de bière.
Oui, Mathieu, je sais que c'est là, pour le coup, c'est un dernier mot. Hein. Vous êtes un passionné d'histoire, mais apprenons peu à peu à vous connaître. Je sais aussi que vous êtes féru de gros cylindrés et de belles pépées, et non l'inverse.
Comme on disait dans votre jeunesse, oui, Stéphane. Mmh. Oui, c'est ça.
Par contre, je ne sais pas si mon sujet du jour va faire écho chez vous, mais aujourd'hui, c'est officiellement le jour du houblon.
Je le savais, vous me l'apprenez.
Dont les fleurs exclusivement femelles, imaginez-vous, aromatisent la bière depuis le XIIe siècle.
Ah, j'aime bien qu'on parle de bière. Ça, c'est une émission qui termine bien.
Justement, rendons ici un hommage mérité à Hildegard de Bingen, religieuse bénédictine allemande qui a découvert les vertus conservatrices.
Vous avez hésité à partir sur l'accent allemand,
oui,
là, je l'ai senti,
j'aime
puis finalement,
bien
vous êtes retenu.
En filigrane, voyez-vous. Les vertus conservatrices de la plante ainsi que son amertume. Je rappelle que la cervoise est à consommer avec modération. Je profite donc de ce jour du houblon pour poser une question essentielle. Pourquoi dit-on « mise en bière » quand, une fois passé de vie à trépas, on se retrouve entre quatre planches ?
Aucune idée.
Eh bien, rien à voir avec la bière.
Voilà, qu'on boit.
Au 8e siècle, les Francs utilisaient une béra. C'était une civière sur laquelle on plaçait les blessés ou les morts. Au XIIe siècle, le mot est resté. Lorsqu'on a commencé à placer les défunts dans un cercueil, béra est devenu bière. On était donc mis en bière. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, légalement, la mise en bière est obligatoire. Oui, on ne peut pas enterrer un corps sans cercueil. Le Code général des collectivités territoriales précise même « Le défunt doit être placé, je cite, dans un cercueil en bois d'au moins 22 mm d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministère de la Santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. » Pour résumer, Mathieu, si vous pensiez être débarrassé des lourdeurs administratives après la mort, vous mettez le doigt dans l'œil. Justement. Alors, le doigt dans l'œil.
Non, Stéphane, on n'a plus le temps pour cette nouvelle expression que vous nous raconterez une autre fois. Stéphane, ce brio avec lequel vous explicitez pour nous, pauvres mortels, l'histoire des mots, on va pouvoir le retrouver demain à 16h sur Europe 1 pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement Vôtre.
Eh oui, Historiquement Vôtre se termine.
C'est toujours un moment déchirant, Stéphane. Surtout, je ne peux pas m'empêcher de me demander, que faites-vous après l'émission ? Que se passe-t-il après, une fois que la porte de la limousine s'est refermée ? Que se passe-t-il derrière les vitres teintées ?
La valse des travestis continue.
C'est votre côté Elton, ça. Faites quand même attention à respecter les gestes barrières, Stéphane, par les temps qui courent.
Mais non, ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain dès 16h, comme tous les jours, avec trois personnages en fil rouge, unis par un seul point commun. Et dans Historiquement Vôtre, demain, de sacrés rigolos, des bouts en train de l'histoire. Le grec Aristophane, Triboulet, le fou du roi,
et Jean-Claude Van Damme.
Ah bah si vous le dites, je vous crois.
Ouais.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.